You're with SBS Radio.
On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS French.
Vous écoutez le programme en français de Radio SBS.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 13 avril 2019. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure en français sur Radio SBS. Au programme, nous décrypterons l'actualité du Pacifique de la semaine, nous ferons une rétrospective. Qu'a bien-t-il pu se passer un 13 avril dans le monde? Nous ferons le point avec Émile Matasso et nous parlerons de cinéma et de film de la semaine que vous propose Laurent Auclair. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on commence avec les grands titres de l'actualité. L'Algérie, le peuple est toujours dans la rue. Et pour la première fois depuis le début des manifestations, eh bien des heurts ont eu lieu. On fera le point dans ce journal. Au Soudan, une nouvelle démission au plus haut sommet de l'État après le coup militaire de cette semaine. Et en Australie, la politique, la campagne électorale a bel et bien débuté. On débute donc ce journal avec l'Algérie, 8e week-end consécutif de contestation dans le pays et le premier surtout après l'annonce d'une présidentielle le 4 juillet prochain pour désigner le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, calendrier électoral contesté par les manifestants et pour la première fois des heurts ont eu lieu. Le point et le récit avec Amin Safar.
Il y avait beaucoup de craintes, de débordements et malheureusement la situation a dégénéré en début de soirée. Un véhicule des forces de l'ordre a été incendié. La police a tiré des gaz lacrymogènes. Ici, les gens insistent, il s'agit de casseurs qui ne représentent pas la mobilisation populaire pacifique. Mais dès ce vendredi matin, la colère était perceptible. Les forces anti-émeutes ont dressé une muraille pour bloquer le passage des manifestants. En face, le cri de la jeunesse algérienne, la colère de la rue, ont fini par l'emporter. Le peuple a réinvesti les principes rue de la capitale. 8 semaines de mobilisation et pour quel résultat s'insurgent les manifestants? Nous avons chassé Abdelaziz Bouteflika et récupéré les résidus du régime. Depuis mardi, l'Algérie a un nouveau chef d'État, un président par intérim qui mène cette période de transition. Mais Abdelkader Ben Salah incarne tout ce que le peuple rejette. Il a accompagné l'ancien président durant son règne, presque 20 ans au pouvoir lui aussi, en tant que président du Conseil de la Nation, le Sénat algérien. Désormais, son portrait est frappé d'une croix rouge. Dans les rues d'Alger, les slogans résonnent haut et fort. Ben Salah dégage. Les Algériens souhaitent tourner la page.
Et c'était Amin Safar pour RFI. Au Soudan, le président du Conseil militaire a démissionné un jour après avoir pris donc le pouvoir avec un coup d'État pour avoir renversé Omar al-Bashir. Le ministre de la Défense nationale, Awad Im Ouf, a annoncé à la télévision qu'il démissionnait après que les manifestants aient refusé de partir des rues, affirmant que les responsables du coup d'État étaient bien trop proches du président Bashir. Le lieutenant général Abdel Fattah Abdelrahman Bougan dirigera désormais le Conseil militaire de transition. L'armée a annoncé qu'elle superviserait une transition suivie d'élections. Le point sur place avec Léa Lisa Westerhoff.
C'était un discours retransmis par la télévision d'État. Awad Ibn Ouf, l'homme fort du Soudan depuis hier, a annoncé son départ en effet et son remplacement. Le général Abdel Fattah al-Burhan prend sa suite. Pour la rue, c'est une deuxième victoire. La démission d'Awad Ibn Ouf, numéro 2 du régime, était ardemment réclamée depuis 2 jours avec ce slogan « Nous avons fait tomber le premier, nous ferons tomber le deuxième ». Les premières images de liesse circulent donc sur les réseaux sociaux. Depuis tout à l'heure, le peuple est content, le peuple impose sa volonté. Peut-on entendre dans les rues de Khartoum. Le nouveau venu, Abdel Fattah al-Burhan, est beaucoup moins marqué politiquement que son prédécesseur. Ce n'est pas un pilier du régime. Il ne s'est pas rendu responsable de violations des droits de l'homme au Darfour, comme les autres, m'expliquait un opposant. Le nouveau chef du Conseil militaire était d'ailleurs venu rencontrer les manifestants cet après-midi pour connaître leurs revendications. Mais tout reste à faire, hein, encore. Il faut entamer des négociations pour un véritable gouvernement de transition civile. Désormais, me disait un manifestant joint par télé, à voir donc quelle décision ce nouveau chef du Conseil militaire va prendre dans les prochaines heures.
Et c'était Lisa Léa Westerhoff pour RFI. Les Nations Unies ont appelé les autorités judiciaires britanniques et américaines à respecter le droit de Julian Assange à un procès équitable. Le fondateur de Wikileaks est sous garde britannique et risque l'extradition vers les États-Unis pour piratage et complot, ce qui peut entraîner une peine de prison de 5 ans. Les accusations portent sur son rôle présumé dans l'une des les plus importantes fuites de secrets gouvernementaux aux Américains. C'était en 2010. On écoute Ravina Shamdasani. Elle est porte-parole du Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies.
We expect all relevant authorities to ensure that Mr. Assange's right to a fair trial is upheld by the authorities, including in any extradition procedures that may take place.
C'était donc Ravina Shamdasani, donc porte-parole du Bureau des droits de l'homme aux Nations Unies. Fait intéressant, Donald Trump, le président américain, fait comme s'il ne connaissait pas Julian Assange. On écoute les propos et le récit d'Adrien Delgrange.
Donald Trump en meeting en 2016, juste avant son élection.
WikiLeaks, I love WikiLeaks.
C'était l'époque où WikiLeaks avait publié des milliers d'emails volés dans le camp démocrate. Au total, Donald Trump a vanté les mérites de WikiLeaks plus d'une centaine de fois pendant sa campagne, pointe le Washington Post. Le quotidien américain affirme même qu'un portrait de Julian Assange, tel un héros, était affiché dans l'une des salles de réunion du candidat Trump. Alors, d'un héros qui a fait les affaires de Donald Trump, Julian Assange serait-il devenu embarrassant pour le président américain ? Interpellé à ce sujet, le président est peu loquace. Je ne connais rien à WikiLeaks. Ce n'est pas mon truc. Donald Trump renvoie désormais la balle vers le ministère américain de la Justice. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il retourne sa veste au sujet de WikiLeaks. En 2010, Donald Trump déclarait « Je pense qu'il devrait y avoir une peine de mort pour les personnes à l'origine de ce site internet ». Après un regain d'amour pour Julian Assange durant la campagne de 2016, la reconnaissance du travail de WikiLeaks par le président américain aura donc été de courte durée.
Et c'était Adrien Delgrange pour RFI. 13h07. On reste d'ailleurs aux États-Unis. Et Microsoft, le géant de l'informatique, pointé du doigt pour un logiciel de reconnaissance faciale. Ces derniers auraient mené des recherches avec les services de défense chinois. Et ces technologies sont susceptibles d'être utilisées à des fins de surveillance et de censure, et notamment auprès de certaines minorités dans le pays. On écoute Antoine Lefebure, expert en nouvelles technologies.
Le gouvernement chinois utilise en général ces technologies en Chine et il y a une région vedette où c'est particulièrement utilisé, c'est le Xinjiang, où effectivement il y a une majorité de Ouïghours qui sont musulmans et qui résistent un petit peu contre la domination chinoise. Et là, cette région est devenue un véritable camp de concentration. Sur 11 millions de Ouïghours, il y en a près d'un million qui sont en prison, en camp de redressement. C'est plus que surveiller et réprimer, c'est vraiment un instrument de domination. Vous avez au Xinjiang une mosquée, par exemple, extrêmement connue, sur laquelle il y a à peu près 250 maintenant caméras installées à l'intérieur de la mosquée, plus un système de contrôle pour rentrer dans la mosquée. Cette mosquée qui était il y a un an, où il y avait des milliers de fidèles qui venaient, et ils sont maintenant une quinzaine, parce que c'est la peur généralisée de se faire repérer comme pratiquant.
Allez, direction l'Australie maintenant, enfin retour en Australie surtout. Vous le savez, la campagne électorale a bel et bien débuté. L'ancien Premier ministre Tony Abbott a affirmé qu'il était réaliste face au changement climatique alors qu'il faisait campagne à Manly, à Sydney. Fin de citation par ailleurs. Le député libéral est aux prises avec le candidat indépendant Zali Stegall pour le siège de Warringah. Monsieur Abbott a remis en question la science sur les changements climatiques un mois après avoir lancé et déclaré que, d'après son opinion, l'Australie devait se retirer de l'accord de Paris sur le climat. On écoute Tony Abbott.
I've always said that climate change happens, mankind makes a contribution, we should do what we reasonably can to reduce emissions. What we shouldn't do though is turn our economy upside down in what turns out to be a futile green gesture.
Voilà donc Tony Abbott. De son côté, le chef de l'opposition Bill Shorten a déclaré que la candidate Melissa Park avait pris une bonne décision en retirant sa candidature travailliste au siège de Curtin en Australie-Occidentale, siège qui était précédemment détenu par Julie Bishop. Ce retrait fait suite à des informations selon lesquelles elle aurait déclaré lors d'une réunion publique le mois dernier que le traitement des Palestiniens par Israël était pire que le système d'apartheid d'Afrique du Sud. Fin de citation. L'ancienne ministre du Développement international du gouvernement de Kevin Rudd a déclaré qu'elle avait pris la décision personnelle de se retirer parce qu'elle ne voulait pas détourner l'attention de la campagne électorale des travaillistes. Bill Shorten dit respecter sa décision.
What this is a story of is that we've got a candidate who is determined that her views might distract the election and she doesn't want to do that. And I respect that. Our party's democratic. And Ms. Parks has made a decision to step down.
13h10, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, le journal. Les juges de la Cour pénale internationale ont refusé d'ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité en Afghanistan. La CPI a déclaré qu'une enquête à ce stade ne servirait pas la justice. Écoutons Karine Bonneau, responsable du bureau de la CPI de l'ONG Justice Internationale.
C'est une décision que nous trouvons absolument consternante. Dans leur décision, les juges ont admis que toutes les conditions étaient réunies pour ouvrir une enquête, et notamment la gravité des crimes, le fait qu'aucune autre enquête n'était menée sur les crimes commis en Afghanistan par le gouvernement, par les talibans, par aussi l'armée américaine et la CIA. Mais ce sont pour d'autres raisons que les juges ont estimé qu'ils ne devaient pas autoriser cette enquête, et notamment des raisons d'appréciation totalement politique et factuelle. Donc aujourd'hui, les juges ont vraiment fait écho à la campagne qui était menée contre la Cour et contre la procureure par l'administration Trump, en décidant que ces pressions, ce manque de coopération, rendaient cette enquête particulièrement difficile et que donc la Cour ne pouvait pas et ne devait pas l'ouvrir.
Voilà donc Karine Bonneau, responsable au bureau de la CPI de l'ONG Justice Internationale. Les maires démocrates américains ont déclaré que leur ville accueillerait finalement les migrants sans papier après que le président Donald Trump ait menacé de reloger dans le cadre de sa tentative de resserrement aux frontières. Sur un tweet, Donald Trump avait confirmé qu'il accorderait une grande importance à cette idée alors que le pays est aux prises avec environ 11 millions de migrants sans papier dans le pays. À New York, où près de 40% de la population est composé d'immigrés, le maire, Bill de Blasio, a déclaré que la politique d'immigration de Donald Trump était fondée sur de la cruauté et accusait le président d'utiliser des personnes comme des pions. Nancy Pelosi, démocrate et présidente de la Chambre, a déclaré que le plan de Trump concernant les immigrés était irrespectueux. On l'écoute.
It's just another notion that is unworthy of the presidency of the United States and disrespectful of the challenges that we face as a country, as a people, to address who we are, a nation of immigrants.
Et c'était donc Nancy Pelosi. L'agence spatiale américaine, la NASA, a publié hier les résultats de sa première étude sur l'impact des vols dans l'espace sur des jumeaux. Les chercheurs disent que les résultats brossent un tableau plus complet des compétences et conséquences néfastes, par contre, des voyages dans l'espace sur l'ADN d'une personne. On sait déjà que la perte osseuse due au voyage dans l'espace doit être combattue par faire des exercices, tout simplement. Et bien, cette fois-ci, les scientifiques ont examiné les indicateurs de maladies liés à l'âge en mesurant ce que l'on pouvait penser d'un raccourcissement des chromosomes avec le vieillissement de la personne. L'astronaute Scott Kelly a été testé avant, pendant et après son vol, alors que son jumeau est resté sur Terre. Suzanne Bailey, experte en chromosomes à l'Université d'État du Colorado, affirme qu'elle tente toujours de donner un sens aux conclusions, montrant que les chromosomes de Scott s'allongent lors du voyage dans l'espace.
We imagined all the stresses and exposures of spaceflight would act to shorten Scott's telomeres in flight. But in fact, he had longer telomeres in flight. So every single sample, every single time point we had in flight, his average telomere length was longer than it was before he went up. So that was really a surprise to us.
Voilà donc Suzanne Bailey de l'Université d'État du Colorado. Un mot de sport pour conclure ce journal. Et en A-League, Mark Rudden a pratiquement bien confirmé son départ imminent en tant qu'entraîneur des Wellington Phoenix, révélant qu'il avait informé la fédération de ses plans il y a plus d'un mois. Les informations selon lesquelles il retournera en Australie la saison prochaine n'ont pas été démenties par Rudden. Après la défaite 2-1 de son équipe contre Brisbane, c'était donc vendredi soir, Rudden a déclaré que les joueurs étaient au courant de ses projets depuis plus d'un mois, depuis le début du mois de mars.
I think what's important in terms of all the speculation that once it started, I was very upfront and honest with my football club and with my players as well. People tend to start talking about or giving reasons out as to why perhaps we lost last week or this week. Everyone knows at the football club what's going on, okay? And for me, you know, it was known before the three games in a row. We scored a record number of goals in three games. So it makes no difference.
Voilà donc Mark Rudden des Wellington Phoenix pour le moment. Coup d'œil météo pour aujourd'hui à travers le pays. À Perth, il fera 27 degrés. Adelaide, 25. Melbourne, 19. Hobart, 17. Canberra, 24. Sydney, 26. Brisbane, 26 degrés. Cairns, 30 degrés. Et à Darwin, 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. L'Algérie, le peuple est toujours dans la rue et pour la première fois depuis le début des manifestations, eh bien des heurts ont eu lieu. Au Soudan, une nouvelle démission au plus haut sommet de l'État après le coup militaire de cette semaine. Et en Australie, la campagne électorale qui a bel et bien débuté. Voilà, 13h15. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.